Bonsoir à toutes et à tous. C'est la dernière émission de la semaine pour Par les temps qui courent. Un artiste ou une artiste tous les soirs pendant une heure. Ce soir, la musicienne Perrine Bourrel.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps, qui courent. Les chaudes montagnes sont là, avec des choses qu'elles hébergent et qu'elles tiennent secrètes. Un jeune homme sans cela en soi, cela dont il languit. Il y a les ombres et les sentiers, et les failles des montagnes et les cachettes, et ce que l'on ne nomme pas. Il y a aussi les tombes, que personne ne connaît, quand ce qui doit se passer là-haut, dans la montagne, s'est accompli. Les quelques mots qui accompagnent la sortie de votre premier disque solo, Perrine Bourrel, sont empruntés à Tarjei Vezas et à son texte « La barque le soir ». C'est un disque qui s'appelle « Des montagnes » et vous y arpentez, avec votre violon, des territoires de musique traditionnelle ou plus expérimentale comme on les appelle. La sortie de ce disque est aussi l'occasion de fêter les 10 ans du collectif de la Nobia, à laquelle vous appartenez. Une grande noce a lieu demain à la Pinatelle du Zouave, en Haute-Loire. On en dira quelques mots. Bonsoir à vous et bienvenue, Perrine Bourrel.
Bonsoir.
Puisque ce disque s'appelle « Des montagnes », on va commencer avec elle.
La montagne a le rôle principal d'abord en tant qu'obstacle. Toute quête ne vaut que par les obstacles qui se présentent. S'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'aventure valable. Donc, le désert, la jungle, la montagne sont autant d'obstacles. Mais la montagne est le plus beau. Parce qu'alors que moi, je ne vois pas de divinité dans le désert ou dans la jungle. Mais chaque fois que je suis en contact avec la montagne, j'ai le sens d'y atteindre le divin. Pour moi, toutes les montagnes sont des montagnes sacrées. C'est pour cela que l'obstacle de la montagne devrait avoir la signification de l'obstacle dernier, c'est-à-dire celui qui barre encore la route jusqu'au divin, si nous projetons ce divin à l'extérieur ou si nous considérons ce divin à l'intérieur de nous-mêmes.
Ce disque-là, Des montagnes, juste avant, c'était la voix de Marcel Briand en 1972 qui parlait de la montagne et pas des montagnes, comme peut-être du plus bel obstacle. Alors quand vous parlez des montagnes, en donnant ce titre à votre disque, vous parlez desquelles?
Ben, je parle de différentes montagnes. Je parle déjà des montagnes qui sont autour de l'endroit où je vis, parce que je vis dans les montagnes. Donc je les vois tous les jours, ces montagnes. Et depuis que je suis petite, je suis avec ces montagnes. Et puis je parle des montagnes intérieures, les montagnes que chaque musicien a. Chaque musicien, je crois, en tout cas moi en tant que musicienne, je cherche mes montagnes. Et chaque montagne peut être une facette différente de moi. Et il y a cette idée aussi de quête, hein, de quelque chose qui est sans fin, de recherche. On a l'impression d'arriver au sommet, puis finalement on en voit une autre qui est plus haute, et alors on continue le chemin, on redescend, on remonte.
Parce que moi, en effet, quand j'ai découvert ce titre-là, j'ai aussi pensé à ce qu'on appelle généralement les montagnes russes, c'est la manière dont on a une palette d'émotions extrêmes qui va très haut, qui peut aller très bas. Ce que permet, je trouve, beaucoup le violon. C'est quelqu'un. C'est un instrument qui peut nous emmener vraiment très très haut et très très bas dans les émotions, mais peut-être restons sur la géographie concrète. Sans forcément dire de quelle montagne il s'agit, mais est-ce que vous sauriez dire quel impact ça a eu pour vous de grandir à côté des montagnes et aujourd'hui de les voir tous les jours ?
Je pense que je m'en rends pas tellement compte, justement, parce que j'ai passé mon enfance... Enfin, depuis que je suis petite, je me souviens quand j'étais petite, quand on rentrait de vacances dans notre village, j'étais heureuse de voir mes montagnes. Je disais, ah, voilà mes montagnes. Et l'impact, je pense que c'est un impact de la nature, de grandir et de passer ma vie dans la nature. Que ce soit la montagne ou autre chose, je pense que la chose la plus forte, c'est d'être dans ces endroits reculés et avec des perceptions qui peuvent être fines parce que c'est silencieux entre guillemets et on n'a pas trop d'informations visuelles non plus, il y a quelque chose de très ça m'a permis depuis enfant et encore aujourd'hui de pouvoir percevoir des choses invisibles.
Et aussi du point de vue de l'oreille, vous voulez dire que par exemple, c'est quelque chose qui le silence se faisant, notamment le soir, quoi, a rendu votre oreille très précise.
Oui, alors je ne sais pas si c'est le fait d'avoir grandi dans des endroits silencieux, mais je suis très sensible à ça depuis petite, à des sons subtils, ténus. Je suis sensible aussi aux sons qui peuvent être très forts et qui peuvent brouiller plein d'autres sons, justement. Mais oui, l'histoire du son là est vraiment très importante parce que quand on est au milieu de la nature là, hier j'étais justement à la Pinatel du Zouave où on installe nos noces. Je suis allée me coucher dans ma tente dans une clairière au milieu de la forêt et j'ai juste poussé quelques cris pour entendre la profondeur en fait de l'écho, de la résonance et ça on peut pas l'entendre ailleurs. C'est très très beau, il y a une profondeur qui me touche vraiment.
Et quand vous parlez de la sensibilité à des sons plus ténus, plus subtils, vous avez des exemples en tête ?
Oui, là tout de suite il y en a un qui vient, par exemple au mois de mars, par une journée de soleil, entendre les pommes de pin qui s'ouvrent. Voilà, ça c'est une chose que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, j'en ai entendu un aussi que je n'avais jamais entendu.
C'est comme quoi, des petits craquements ?
Oui, c'est des petits craquements de un peu de bois et qui n'arrêtent pas quelque part, mais c'est très fin, très fin. Et j'habite depuis 20 ans dans l'endroit où je vis et il y a beaucoup de pins et je l'ai entendu qu'une seule fois. Je pense qu'il faut être là au bon moment aussi.
Et vous alliez en rattraper un autre dans votre mémoire de son, c'est lequel ?
Ben là, je me souviens pas. Voilà. Ça reviendra peut-être tout à l'heure.
En tout cas, tout ça, Perrine Bourrel, nourrit la manière dont vous êtes avec votre violon, dont vous êtes avec la musique de manière plus générale.
Oui, je pense, cette manière de vouloir aller chercher les choses un peu secrètes, justement, ou profondes et secrètes et qu'on n'entend pas comme ça si on passe trop rapidement à un endroit. Il faut, je crois, rester à un endroit et se mettre dans une certaine écoute et avoir un certain temps pour percevoir ces choses-là.
Est-ce que vous pouvez parler du moment plus ou moins long pendant lequel vous avez enregistré ce qu'on vient d'entendre. C'était où et c'était quoi comme moment ?
Le morceau Appel qu'on vient d'entendre ? C'était chez moi, j'ai enregistré ce disque chez moi, dans une petite cabane qu'on nous a fabriquée au fond des bois, pour la musique. Et ce morceau, je l'ai enregistré dans cette petite cabane. C'était au mois de juillet, on entendait un peu les grillons dehors. J'avais laissé la porte ouverte parce que j'aime bien entendre ça. Ça fait une sorte de bourdon, en fait. Mais on l'entend pas, là, dans l'enregistrement. Vous me demandiez si ça a pris du temps d'enregistrer ça?
Non, juste de me parler de ce moment-là. Bah, donc, ah oui. Pourquoi pas savoir combien de temps ça vous a pris?
Ah oui, non, j'ai pas bien compris la question. Et c'était la personne qui enregistrait, Yvan Etienne, qui fait partie aussi du collectif, était dans cette. C'est une toute petite cabane. Donc le studio était minuscule et c'était drôle parce qu'il fallait être pour Yvan très discret à partir du moment où il mettait les micros en marche parce qu'il était à l'intérieur. Et c'est lui qui actionne ce qu'on entend derrière là, le bourdon. Et en fait, ça, c'est une impro. On a fait, je sais pas, deux prises seulement et hop, c'était là. Ça s'est fait de manière très spontanée.
Vous vous dites, ok, on va essayer quelque chose, on va dans la cabane, pour jouer.
Oui, c'est à peu près ça.
Et après, vous sortez, c'est fini la musique ou vous continuez?
Non, en général, je sens bien quand c'est bon, quand c'est ok, je vais pas réessayer. Parce que je sais que je pourrais réessayer des fois, enfin plein de fois, et ça sera jamais la meilleure. Qu'est-ce que c'est la meilleure prise? Je sais pas.
C'est quoi la meilleure prise? Puisque vous savez pas.
Et ben pour moi c'est ce que j'aime, moi, c'est chercher entendre une spontanéité ou un élan. Donc justement, à force de répéter les prises, ça peut être plus compliqué de percevoir ça. Et pour moi aussi, quand je joue. Si je répète, j'aime bien aussi, hein, c'est un autre travail de répéter des prises, c'est intéressant, j'aime aussi ça. Mais je sais qu'en général, dans les deux, trois premières prises, c'est là et j'accepte aussi qu'il y ait quelques petites choses que je trouve moins bien. Mais qu'est-ce que c'est aussi le moins bien? Peut-être que je suis pas bien placée pour décider, en fait, ça.
Et qui décide alors?
Et ben là, c'était bien parce qu'il y avait la personne qui prenait le son, Yvan, c'était important pour moi de trouver une personne avec qui j'aime travailler et en qui j'ai confiance parce que justement il avait une oreille et un regard et des retours qui m'ont permis de faire des choix.
Thank you. L'artiste, le virtuose professionnel qui joue d'un violon, est appelé dans notre monde savant violoniste. Mais il y a une autre expression dans le monde de l'art populaire qui est moins utilisée, moins connue. Le musicien populaire qui joue d'un violon est appelé violonneux. À quel point cette dénomination, dans les milieux sophistiqués, a pris un sens péjoratif, le dictionnaire Larousse le prouve avec éloquence. Violonneux, explique Larousse, est un mauvais joueur de violon. Eh bien, non. Le violonneux est loin d'être un mauvais joueur de violon. Il est autant virtuose accompli que le violoniste. Il possède une technique aussi parfaite, un don expressif aussi remarquable, un rythme aussi impeccable, qu'exige d'ailleurs la musique qu'il interprète.
Et nous voilà en 1961, c'est la voix de Paul Arma qui fait la distinction entre violonneux et violoniste. Vous avez l'habitude de plutôt vous présenter comment ?
Comme violonneuse. Parce que ce mot violonneuse n'existait pas. Il n'y a pas d'enregistrement de violonneuse. Les femmes n'avaient pas le loisir d'apprendre un instrument à l'époque où ces musiques-là étaient populaires. Donc je me permets de... Je me sens violonneuse parce que ça marque aussi cette époque-là, aujourd'hui, de dire violonneuse. Si j'étais un homme, je ne dirais pas que je suis violonneux.
Ah
je
oui.
pense que je n'assumerai pas ce mot, parce que pour moi, les violonneux, c'est les personnes qu'on a collectées, que j'admire, et c'est lié vraiment à une période.
Alors que là, c'est une double entorse, finalement. Mmh. En fait, vous vous détachez d'une époque où, de toute façon, les violonneuses n'existaient pas, mais en même temps, vous n'êtes pas une violoniste femme.
Voilà, c'est ça.
Abscisse et coordonnée. Alors parlons de ces violonneux que vous avez peut-être rencontrés, enregistrés. Parlons de l'un d'eux, auprès de qui vous avez passé du temps, Perrine Bourrel. Ça veut dire quoi, aller voir ces gens-là et récolter leur musique ?
Alors déjà, moi je considère que je n'ai pas rencontré de violonneux, parce que quand je me suis intéressée à ces musiques, ils étaient tous morts à la fin des années 80 ou 90. Donc je les ai rencontrés que par des collectages. Ces collectages ont été faits par des gens qui jouaient du violon, que j'ai rencontrés, ces personnes-là, mais ils ne se disent pas violonneux et je ne les considère pas comme violonneux, parce que pareil, c'est une histoire de temps, de période et de rapport à ces musiques. Toutes les personnes qui ont enregistré ces violonneux ont un recul sur ces musiques et ils sont revenus à ces musiques. C'est pas un fil qui s'est fait spontanément, qui s'est transmis de père en fils. Voilà, en France, c'est comme ça.
On parle de quelle époque, du coup, quand on parle des violonneux ? Ceux-là, ceux qui ont vraiment existé et qui ont vraiment le droit de porter ce nom-là.
Un des violonneux qui m'a marqué, grâce à qui je joue ces musiques, il est né en 1901. Et il a joué ces musiques, elles étaient populaires jusque dans les années... je vais peut-être un peu me tromper parce que je ne suis pas une très spécialiste de ça sur les dates. Mais dans les années 50, ensuite l'accordéon est arrivé. Et puis il a repris le violon quand les collecteurs sont arrivés dans les années 70. Mais c'était cette période, la période d'or, c'était dans les années 20, 30, 40. Et puis sûrement avant aussi, bien sûr.
Et quand vous dites ces musiques, alors c'est quelle musique dont il est question ?
Les musiques de collectage. Quand je dis ces musiques, c'est les musiques, moi, qui me touchent. C'est les musiques que certains violonneux jouent et qui sont des musiques d'une période ancienne. On ne sait pas trop de où ça vient. Ça s'est transmis, mais ce n'est pas passé par la machine des musiques mondialisées, avec certaines harmonies. Donc c'est des musiques qui sonnent différemment. C'est des musiques qu'on entend partout dans le monde, en fait. C'est des musiques qui sont là pour faire danser ou pour accompagner certains moments, certains passages dans la vie des gens. C'est une musique un peu du quotidien. Enfin, du quotidien, c'est quand même pas tous les jours, mais... Il y a un rapport direct avec
la vie des gens, quoi.
Voilà, avec la vie des gens. Il y a pas ce rapport spécialement. Il y a pas un violoneux qui va aller jouer un concert. Non, il va pas faire un concert.
Il est là pour quelque chose.
Il est là, voilà. C'est une musique pour certaines fonctions. Moi, je parle de ces musiques plus anciennes. C'est celles qui me touchent le plus. Les musiques modales. Qui font aller à des endroits que je ne connaissais pas, parce qu'avant je jouais de la musique classique. Et c'est un peu les endroits, pour moi, entre les notes.
Mais qui sont des endroits d'harmonie, d'imaginaire, d'émotion?
Juste techniquement, c'est des endroits qui sont au niveau des notes, voilà, c'est des notes que je jouais pas en musique classique. Donc c'est les notes entre les notes. Sur le son de l'archer, c'est pareil, c'est un autre travail de son complètement. C'est plutôt un son qu'on interdit de faire, même gommer, voilà, en musique classique. Et bien sûr que c'est la musique d'un imaginaire, parce que c'est une musique liée à des lieux, à des paysages, et puis à des personnes. C'est une musique orale, donc quand on a un nom de morceau, ça va être lié soit à une personne qui l'a transmise à une autre personne, ou ça va être lié à un lieu précis, le Rigaudon de tel village ou de tel. Mais je connais aussi beaucoup la musique en Irlande, parce que j'ai habité là-bas. Là, c'est beaucoup plus c'est vivant. Il y a le fil s'est tenu justement. Et là-bas, ça peut être vraiment le morceau de l'arbre du champ d'à côté de cette maison.
Comme une autre à cet arbre-là?
Oui, c'est très précis. Et ça ouvre un imaginaire, bien sûr. Si on a la chance d'aller voir cet arbre, par exemple, ou d'aller voir cette cascade, ou d'aller voir la maison de tel musicien. Enfin, moi, c'est ce que j'ai essayé de reconstruire. Parce que c'est une musique qui est un peu rien, quelque part. Il y a très peu de notes, il n'y a rien. Si on la joue de manière classique, il ne se passe rien. Il y a plein de choses autour qui débordent et qu'on ne peut pas trop définir, et qu'il faut que moi, j'ai eu envie d'aller chercher pour nourrir ça.
Quand vous dites qu'en France, ça ne s'est pas passé comme ça et que la transmission n'a pas été comme ça linéaire, contrairement à ce qui a pu se passer en Irlande, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces violoneux qui ont lâché le violon quand l'accordéon est arrivé, ils n'ont pas transmis leur pratique, alors certainement encore moins à leurs filles et pas à leurs fils?
Oui, ça veut dire que je pense que les personnes à qui ces violoneux auraient pu transmettre leur musique n'étaient pas intéressées. Je pense que c'est aussi une période où ces gens étaient à la campagne et voulaient aller vivre en ville. Et il y a cette idée aussi de progrès. Donc ça concerne plein de choses. Ça concerne ne plus vivre à la campagne, avoir une maison avec toutes les commodités et ne plus jouer ses musiques. C'est tout imbriqué, en fait. Et je comprends tout à fait. Enfin, il y a vraiment... oui, je comprends tout à fait cette manière de faire.
Alors, si Michel Favre n'est pas un violoneux, c'est qui ? Perrine Bourrel.
Alors, Michel Favre, c'est la personne avec qui j'ai appris le violon. Et lui, il est suisse et il a eu il est fermier, il s'est installé dans les Alpes de Haute-Provence il y a un peu plus de 30 ans, je crois. Et il est tombé sur ces fameux collectages de violoneux. Lui, il jouait du violon un peu, mais plus musique folk américaine. J'espère que je ne me trompe pas trop, mais je crois que c'est à peu près ça. Et ça l'a vraiment touché, marqué, ce son-là. Il s'est complètement passionné, parce que c'est quelqu'un comme ça, quand quelque chose lui plaît, il va à fond, complètement dedans. Et il a décortiqué, avec un ami qui jouait du violon, il a décortiqué les collectages. Et pour moi, à mon sens, c'est la personne, quand j'ai découvert ses musiques, qui l'a joué, qui continuait ce fil de son, de manière de jouer.
Mais quand vous dites décortiquer, ça veut dire qu'il a fait quoi? Une entreprise de notation? Il a refait des partitions? Ou simplement,
non, non.
À l'oreille, il a essayé de comprendre c'était quoi cette musique?
Il a écouté les collectages et c'est à l'oreille qu'ils ont cherché ça. Mais c'est l'oreille, et puis aussi, je pense, c'est juste une histoire de cœur. D'aimer les choses et de chercher les sons qui peuvent nous toucher dans ces collectages. Il y a une attitude qui peut être très intellectuelle de décortiquer, mais après, il y a quelque chose de très spontané. Et il a fait les deux en même temps, je pense.
Et il vous est transmis.
Voilà. Moi, c'est un fermier et c'était une époque où j'allais travailler dans des fermes. Et du coup, j'ai fait d'une pierre deux coups, je suis allée dans sa ferme pour apprendre le travail de la ferme et pour apprendre le violon. Mais comme dans bien des histoires d'apprentis, finalement, on n'avait pas le temps tellement de jouer du violon. Mais il y a beaucoup de choses qui sont passées, finalement, de travail de la terre et puis de posture, d'écoute, justement, d'être dans des lieux complètement paumés. De nature, et puis je veux surtout pas dire qu'il faut connaître la nature et vivre dans la nature pour jouer ses musiques, hein. Je veux surtout pas dire ça, mais ça m'a fait découvrir quelque chose de global, il m'a fait beaucoup écouter de choses, et j'ai pu comme ça, parce que je le sentais profondément aussi, mais désapprendre ces choses que j'avais apprises en musique classique.
J'allais y venir, évidemment. Alors peut-être vous jouez pas de violon auprès de lui, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui se déconstruit de votre premier apprentissage. C'est un parcours classique de enfant, vous découvrez le violon, vous apprenez, vous jouez de la musique classique, c'est dur, tout ça.
Oui, c'est j'ai désappris tout ça. Mais le violon, c'est un instrument que je réclame à jouer depuis que je suis toute petite, apparemment. Ma mère jouait un peu du violon, donc il y avait un violon à la maison. Donc c'est quelque chose, je suis convaincue depuis que j'ai, je sais pas, 5 ans, 4 ans que je veux jouer cet instrument.
Que vous êtes faite pour lui.
Voilà. Et en France, quand on veut apprendre un instrument, on va dans une école de musique, donc j'ai fait tout un cursus de musique classique, j'y arrivais très bien, j'adorais ça, il y avait vraiment aucun problème. Mais à l'adolescence, il y a justement quelque chose qui me parlait moins dans ce répertoire. Et je suis tombée, j'ai arrêté le violon, bien que je pouvais pas trop le quitter, cet instrument. Mais j'ai découvert ce disque de collectage qui m'est tombé dessus, et ça a été le début d'une autre montagne. France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Perrine Bourrel.
Qu'est-ce qu'on entend là, Perrine Bourrel?
C'est le rigodon du château d'Ancel. Le château d'Ancel, c'est un village dans le Champsaur. Et dans ce village vivait un violoneux qui s'appelait Félicien Philippe, qui a été collecté. Et j'aime beaucoup ce rigodon. Le rigodon, c'est un type de danse, donc il y a plusieurs rigodons. C'est la musique qui était jouée et dansée dans cette région-là, dans ce coin-là. Et celui-là, il sonne pas comme les autres, il a vraiment quelque chose de très particulier. Je vais pas rentrer dans les détails, et puis c'est quelque chose de que je peux pas trop expliquer. Et voilà.
Quand vous dites que c'est une sorte de danse, c'est une danse qui est dansée à quelle occasion? Tout à l'heure on disait c'est vraiment une musique qui est liée à des moments de vie. Alors ça se danse quand?
Aujourd'hui, En ce moment où...
Oui, ou à l'époque.
À l'époque, ça se dansait lors de fêtes de village, mais aussi en hiver, quand il y avait moins de travaux des champs. Et ben, les gens se rassemblaient, pas tous les jours, hein, mais se rassemblaient dans les maisons, chez par exemple le violonneux, où il y avait des maisons de musique en fait, où c'était assez vivant et où les gens allaient danser et
pour se réchauffer passer du bon l'hiver. Temps.
Voilà.
Quand vous disiez tout à l'heure que c'est une musique qui appelle un certain imaginaire, mais aussi parce que c'est lié à des lieux, ça veut dire que c'est aussi gonflé de ça que vous jouez, gonflé de la connaissance de cet endroit, et éventuellement le jeu précis de ce violonneux qui a été enregistré, collecté. Votre jeu, il est nourri, augmenté de ça?
Oui, je me laisse toucher en fait par... partout, quelque part. Je me laisse toucher par tout ce qui se passe dans la vie, dans ma vie. Quand je joue ces musiques, comme c'est un fil qu'on tire, c'est une musique qui est là depuis très longtemps. On sait même pas depuis quand elle est là. Mais j'ai l'impression d'être avec tous ceux que sont là, tous les gens qui avant ont joué ces musiques. Il y a une posture, je sens, d'ouverture. Pour laisser la place aussi à cette histoire. Parce qu'elle ne m'appartient pas. Je suis juste là, ici aujourd'hui, et j'ai pris ce film et ça passe par là. Ça continuera peut-être ou pas. Mais je me sens bien sûr, remplie de tout ça et des paysages, bien sûr, et des moments passés avec de partage avec des personnes, avec il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières, ça concerne toute la vie en fait.
C'est pas que la musique comme la musique qui serait un espace clos ou séparé du reste. Tout à l'heure, Perrine Borel, quand j'ai dit ça se danse quand, vous m'avez dit mais avant ou maintenant? Alors si on se demande ça se danse quand maintenant et dans quel genre de maison ou de forêt ou de clairière? C'est une musique qui vit où et avec qui?
Y a certaines personnes qui aiment danser ces musiques. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est des personnes engagées, motivées. Donc ça se danse dans des festivals, on peut jouer. Ça se danse. Ça peut aussi se danser à la maison. Chez moi, on le danse des fois quand il y a des personnes qui viennent et qui ont envie de danser. C'est un petit milieu, mais il y a des gens vraiment qui continuent ce fil de cette danse avec l'énergie liée à cette musique.
Et ça, c'est aussi parce que je parlais de ce qui nourrissait ou remplissait ou pétrissait votre jeu. La danse, le fait d'être entouré par des danseurs. Il y a quelques mois, à cette table, il y avait une documentariste réalisatrice qui s'appelle Laetitia Carton et qui a filmé un grand bal, plein de moments comme ça de danse, et qui montrait très bien avec ses images combien, alors peut-être que c'est pas assez danse précisément, mais combien l'énergie des musiciens était totalement indépendante de l'énergie des danseurs et des danseuses et vice-versa. Vous, quand vous jouez aussi pour la danse ou avec l'idée de la danse, même quand ça ne danse pas autour de vous?
Oui, alors c'est quand même une énorme différence quand ça danse ou quand ça ne danse pas.
Alors quand ça danse?
Quand ça danse, bien sûr que je joue, c'est un jeu avec les danseurs en fait. C'est un aller-retour, ça circule. C'est pour ça que... finalement, c'est malheureusement, c'est assez rare les balles vraiment que j'apprécie parce que il y a peu de bons danseurs. Bons danseurs dans le sens où c'est les personnes qui vont jouer avec le musicien, avec les variations que je peux faire. Et il y a du répondant. Il y a du répondant dans les deux sens. Voilà, c'est cet aller-retour et ça, j'adore. C'est vraiment un grand plaisir. Et quand je joue en concert ces musiques de danse, bien sûr que c'est une danse. Mais j'imagine, c'est une autre, c'est vraiment une autre manière. Je suis pas dans le même état. Non, ça, c'est autre chose. Et ça me gêne absolument pas que personne ne danse. D'ailleurs, ça me gênerait même, je pense, si des gens dansaient.
Thank you.
Baz, Taud, le trio qui a fondé le collectif, on faisait du bal trad, mais dans une dimension très électrique. On avait fait le choix d'amplifier les instruments, de jouer sur ampli et d'électrifier les instruments, donc la vielle, la cornemuse, et bon, pour la guitare c'était plus naturel, mais il y avait une envie d'affirmer quelque chose de l'ordre du sonore qui en fait est déjà omniprésent dans les instruments traditionnels. C'est-à-dire que juste ce qu'on a amplifié, c'est quelque chose qui apparaît déjà dans les instruments traditionnels, même en acoustique. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans d'autres projets qui arrivent après Taud, on a travaillé vraiment en acoustique, mais avec toujours cette même identité sonore. Et très vite aussi, on s'est rendu compte que cette recherche dans le son, c'était le même type d'approche que moi j'avais par ailleurs dans la musique expérimentale et avec d'autres musiciens que je rencontrais aussi. Et ce qui fait qu'assez vite, on a le collectif, c'est pas uniquement resté concentré sur la musique traditionnelle, mais a aussi s'est ouvert vers des chants plus expérimentaux. Et donc, ce que Yvan et donc moi-même et nous tous on appelle les musiques de ton soutenu, c'est des musiques qu'on peut dire à bourdon, mais qui travaillent en fait sur un étirement dans le temps d'un son, en fait, en travaillant à la fois sur le spectre et aussi beaucoup avec avec l'espace, en fait, parce que du coup l'espace architectural entre énormément en jeu dans ce type de pratique là, ce type de musique là.
C'est le musicien Yann Gourdon en 2016 au micro d'Anne Montaron dans cette très belle émission qui s'appelle À l'improviste sur France Musique. Perrine Bourrel, peut-être pour alors parler de plein de choses. Dans un premier temps, du collectif La Nobia, puisque Yann Gourdon parle de la création de ce collectif-là et que demain, celles et ceux qui auront la chance d'être avec vous pourront faire la grande noce pour les 10 ans du collectif de La Nobia. Vous avez quoi comme rapport avec ce collectif-là? Je précisais en introduction que c'est un premier projet solo. Ça veut dire que votre vie musicale, elle était quoi avant d'être premier projet solo?
J'étais musicienne, je jouais des musiques traditionnelles au violon. J'avais plusieurs groupes de bal. Je jouais aussi, j'étais musicienne pour une troupe de théâtre. Et je jouais pas du tout ces musiques-là, hein, c'était autre chose. Mais c'est en fondant le duo Violoneuse en 2013... que on a demandé aux musiciens du collectif de La Nobia si on pouvait rentrer dans ce collectif. Là, c'était d'abord avant tout pour des histoires juste administratives, pratiques, mais leur travail nous parlait. Moi, je connaissais à peine ce qu'ils faisaient, mais en leur demandant, je me suis un peu plus renseignée sur ce qu'ils faisaient et ça m'a touchée tellement profondément que... Enfin, à partir de ce jour-là, je me suis sentie beaucoup moins seule.
Alors, qu'est-ce qu'ils font pratique pour tous ceux qui les connaissent pas? Ils font quoi?
Moi, en tant que musicienne de musique traditionnelle, dans ma pratique de musique traditionnelle, la manière que j'ai d'aborder ces musiques avec ce son-là, avec ces collectages, en travaillant sur les collectages, j'ai rencontré dans La Nobia plusieurs musiciens qui avait cette même approche. Et finalement, en tout cas à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Et je me sentais seule parce que justement, c'était pas forcément apprécié, cette manière vraiment de rentrer dans ces sons, de pas du tout lisser, en tout cas, de rentrer dans cette matière qu'on entend dans les collectages. En tout cas, dans les collectages, que j'entends dans les collectages qui me plaisent.
Quand vous dites que c'était pas apprécié, c'est quoi? Il y a quelque chose qui est trop brut, qui est pas assez lissé, qui peut accrocher à l'oreille?
Oui, c'est des sons que les gens ont pas l'habitude d'entendre. En fait, moi, j'ai écouté les collectages, donc j'ai cette habitude, mais c'est des sons qu'on entend peu souvent. Et les gens entendent tellement de musique et de choses lissées que c'est pas facile pour l'oreille, je pense. Ça accroche. C'est des sons qui... peu habituel. Et au violon, c'est encore une autre histoire, parce que le violon, c'est tellement l'instrument des musiques classiques qui joue un son pur et qui peut être très beau, hein. Mais moi, je suis vraiment à l'opposé de cette recherche, que ça peut choquer des gens. Enfin, donc, il y a un moment où je me suis demandé si vraiment j'étais dans le bon, enfin, si, Enfin, oui, je me sentais seule. J'ai jamais douté de moi-même, mais je me sentais seule.
Et donc, ce collectif-là, c'est aussi la possibilité de, se sentant moins seule, faire des choses avec peut-être plus de force. Quand vous préparez une grande nuit de noces comme ça pour fêter les 10 ans, ça va ressembler à quoi ?
Ça va ressembler à une grande fête de concerts et de balles au milieu d'une forêt.
Accessible à pied.
Voilà, il faut marcher 20 minutes à peu près. Et c'est une clairière au milieu d'une forêt et on a installé au milieu de cette clairière un beau chapiteau pour abriter quand même un peu les danseurs et les musiciens avec un parquet pour danser. Et ça va être une nuit dans la nature et avec ses musiques et ça va passer d'un groupe à l'autre du collectif et je pense que ça va être intense. On va rentrer vraiment dans cette matière de son. On va jouer de 15h à 5h du matin à peu près, non-stop. Donc ça va marquer, je pense, les oreilles et les jambes pour les danseurs aussi, sûrement.
Oui, c'est vraiment comme une sorte de plongée dans toute la matière, jouée, collectée, ressentie, comme ça, depuis 10 ans. Quand Yann Gourdon disait que finalement, il avait un rapport très très fort avec ses notes tenues, et que c'était presque le lien entre les musiques qu'on dit traditionnelles et la musique plus expérimentale, pour lui en tout cas, joueur de vielle à roue. Vous avez quoi comme rapport avec le bourdon, avec ces notes-là, Perrine Bourrel ? Ça vous fait quoi ? Tout à l'heure, vous dites que c'est une musique de cœur, alors ça vous fait quoi au cœur ?
Ces musiques de bourdon, ça... Au violon, c'est pas le même rapport, en tout cas au bourdon, par exemple, qu'à la vielle à roue, parce qu'à partir du moment où on tourne la roue de la vielle à roue, ce bourdon est là constamment. Mais c'est un jeu que j'ai avec ce bourdon, de le mettre ou de pas le mettre. Et c'est un des endroits les plus riches, je trouve, du jeu de violon. Comment jouer avec ça? Donc c'est bien sûr une musique de bourdon. Et puis comment justement la mélodie sonne selon le bourdon qu'on va mettre, selon la note qu'on va faire sonner à côté. C'est un monde à chaque fois qui s'ouvre.
Justement, oui, voilà, il parle de spectre sonore, mais aussi de rapport à l'espace, comme un lien intérieur, à une sorte d'architecture sonore intérieure, mais aussi une architecture sonore concrète, quoi. Pareil pour le violon, que vous jouez dans votre petite cabane pour faire du son, Perrine Bourrel, ou que quand vous jouez dans une clairière de forêt, on est dans des rapports de son à l'espace extraordinairement différents. Et ça fait partie de l'aventure ?
Oui, complètement. Je pense que la rencontre aussi avec ces musiciens m'a fait prendre conscience de ça. Je le faisais plutôt inconsciemment, de jouer en jouant avec l'espace, en fait, dans lequel je joue.
Quand on dit jouer avec l'espace, concrètement, c'est quoi ?
C'est qu'un même morceau, on va sonner différemment selon l'endroit où on le joue. On va pas avoir la même réponse de l'espace. Et du coup, ça va plus ou moins inconsciemment modifier le jeu, le rapport de jeu à cet espace. Et c'est ce que j'adore faire là dans mon solo, parce que je suis toute seule et c'est moi qui choisis, en plus qui fait tous les choix en direct quand je joue. J'adore le jouer partout, en fait. Il y a des endroits qui sont plus ou moins faciles. Mais
ici, ce serait difficile, par exemple, non ?
Ah oui, ici dans le studio,
tout est tellement maîtrisé,
très mat, ouais. Mais à la fois, ce serait intéressant aussi. Il y aurait des choses quand même.
Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui dépasse quand même dans le son de ce studio.
Non. Mais bon, moi, je peux en faire dépasser toute seule quand même.
Pour moi, la sensualité, là, elle est là dans le goût du son. Elle n'est pas dans le contact, dans le toucher de l'instrument. Elle y est parce que ça fait ça. Si ça faisait pas dang, comme ça, c'est pas grave. Vous pouvez appuyer votre doigt là, ça fait un peu mal.
je voudrais qu'on réussisse à parler de cette musique sans complètement déranger les gens qui l'écoutent, Perrine Bourrel, avant de vous faire réagir à l'archive de Jean-Pierre Drouet. Donc c'est le morceau qui ouvre le disque Des Montagnes. Comment il s'appelle et qu'est-ce que c'est ?
Il s'appelle Glissendo, parce que c'est un glissendo. En musique classique, cette technique-là que j'utilise, on appelle ça un glissendo. On met un doigt sur la corde et on le fait glisser de manière plus ou moins rapide. Ça, c'est un choix. Sur la corde, ce qui veut dire qu'on va passer par toutes les notes, par toutes les fréquences. Et ce morceau, c'est une ouverture quelque part. Ça annonce toutes les fréquences qu'on va pouvoir entendre par la suite.
C'est une sorte d'exploration radicale d'un instrument, en fait. C'est de dire, voilà, tout ce qu'il peut faire.
Voilà, c'est ça. Tout ce qu'il peut faire... Enfin, il peut faire aussi d'autres choses. Mais dans les fréquences, voilà tout ce qu'il peut faire. Je pense qu'il peut en faire un peu plus. Je pourrais aller encore plus loin. Mais et c'est aussi... ça, c'est avec Yann que j'ai travaillé ça.
Gourdon.
Oui, Yann Gourdon. Je joue une double corde en même temps. Du coup, il y a le rapport. Il y a deux notes en même temps, deux fréquences. Il y a le rapport d'une corde, d'une note qui est toujours la même, une corde à vide. Et il y a cette note qui monte. Du coup, ça crée des rencontres de fréquences qui en créent une troisième. Et il y a quelque chose d'assez, de très beau dans ce morceau parce que. Je maîtrise pas, je sais pas ce qui va apparaître. Tout à l'heure, je disais que j'aimais bien les surprises. Et là, c'est des surprises et c'est de la nourriture pour du jeu, justement. Quelque part, depuis quelques années, ce que je cherche avec cet instrument que j'ai entre les mains depuis que j'ai 7 ans, c'est de comment retrouver de la surprise et du coup de la spontanéité. Comment ouvrir un autre monde? Et là, j'ai commencé cette voie et elle est passionnante.
Et il vous en réserve en fait encore et encore des surprises.
Ah oui,
ce violon.
Ah oui, vraiment complètement là. Oui, oui. C'est un instrument très. Moi, je suis contente d'avoir choisi ça quand j'étais enfant. Je pense que j'en ai pour toute la vie et même plus. Mais
plus que d'autres, quoi, vous voulez dire, sans froisser les personnes, mais
oui,
je veux dire,
oui,
plus que le piano,
aucun...
par exemple.
Ben, il y a un compositeur que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Chelsea, qui explique que avec le violon, on peut, c'est un instrument avec lequel on peut aller jouer à l'intérieur du son.
C'est-à-dire?
C'est rentrer. Je peux pas trop expliquer là parce que j'aurais pas assez le temps, je pense. Mais c'est rentrer dans certaines subtilités de son. Et avec cet instrument, c'est possible parce que on peut jouer à la fois très très fort. Ce morceau, la glissendo, en fait, pour que ça sonne comme ça, je joue extrêmement fort. J'ai presque l'impression que je vais casser mon instrument.
Quand vous jouez fort, c'est quoi? C'est l'archet, quoi?
Oui, c'est l'archet qui appuie très très fort. Vraiment, c'est saturé. C'est un son extrêmement fort. Et on peut jouer à la fois... très très doux. Il y a aussi toute cette microtonalité de glissendo. On peut faire toutes les notes qui existent, donc on peut jouer sur entre les notes.
Il n'y a pas les comment on appelle ça.
Il n'y a pas de frettes.
Ouais.
Donc on peut jouer toutes les notes qui sont entre les notes et varier dans ces choses-là. Et il y a l'archet qui est une des choses les plus importantes pour moi de cet instrument, avec lequel on peut varier. Il y a une richesse de son selon comment on pose l'archet, selon comment on l'appuie, selon comment on attaque la corde. Il y a tout un monde dans l'archet. Il y a plusieurs mondes dans l'archet. Il y a plusieurs mondes à la main gauche avec les notes.
Il y a plein de monde en soi aussi.
Oui, il y a plein de monde en soi. Mais c'est un instrument qui permet beaucoup beaucoup d'exploration. Et là, je parle en plus que des sons classiques de l'archet sur la corde, mais je peux aussi très bien aller chercher les sons plus frappés. C'est encore un autre monde, ça. Frapper avec le doigt ou avec l'archet, ou sur le bois, par exemple. Mais bon, je réponds pas trop à la question de Chelsea. Il faut lire le livre « Les anges sont ailleurs », parce que c'est un livre qui m'a vraiment marqué.
Mais peut-être on peut parler sans parler de ce livre-là, forcément, mais tout à l'heure, vous disiez que Michel Favre vous avait fait écouter beaucoup de choses. certes, les collectages, mais beaucoup de choses. Et vous étiez restée assez mystérieuse. Avec Chelsea, bon, c'est un territoire. Vous écoutez quoi en dehors de ces musiques et des musiques qui sont jouées avec le collectif de la Nobie?
En dehors des musiques de collectage et... Justement, Chelsea, c'est quelqu'un que je peux écouter. Le travail qu'il a fait pour les instruments à cordes, ça a été une révélation. Il y a peu de temps, il y a quelques mois, j'ai découvert ça. Et puis, je vais écouter des musiques, certaines musiques expérimentales qui me touchent aussi vraiment profondément. Et je suis heureuse d'avoir découvert ça aussi parce que il y a vraiment... il y a beaucoup de musiques qui me font rien du tout, en fait. Et quand il y en a une qui me fait vraiment quelque chose, ben je suis vraiment heureuse.
C'est un grand sac, on peut dire, ou alors moins péjorativement, c'est un grand univers quand on parle de musique expérimentale. C'est difficile de dire qu'est-ce qu'on y met dedans, Perrine Bourrel. Vous diriez quoi, vous, quand vous dites « je découvre la musique expérimentale », vous découvrez quoi?
Et ben pour moi, c'est une ouverture des possibles sur soi, qu'est-ce qu'on veut mettre dans... Qu'est-ce qu'on veut chercher? Qu'est-ce que je veux chercher dans le son? Qu'est-ce que je... Parce que ce qui me guide, c'est le son. C'est pas une histoire de vouloir dire des choses. Ça, je crois que ça vient après. C'est le plaisir du son. Là, on entendait l'archive là aussi là, du son.
De la sensualité, c'est ce que disait Jean-Pierre Drouet, ouais.
Donc c'est voilà, dans les musiques traditionnelles, je me sentais un peu cloisonnée quand même, même s'il y a dans le cadre, il y a beaucoup de choses à chercher. Mais il y a un moment où j'avais besoin de chercher encore plus loin. Et je pouvais pas le faire dans le cadre des musiques traditionnelles. J'arrivais pas. Donc les musiques expérimentales, quelque part, c'est la musique d'aujourd'hui, et enfin contemporaine, et de soi, enfin d'aller chercher. C'est ce qui m'a frappé les premières fois que j'ai entendu ces musiques-là. C'est Yann qui m'avait passé pas mal d'enregistrements, Yann Gourdon. Et j'ai entendu que les musiciens allaient chercher leur musique.
Finalement, on en revient à notre toute première archive où il était question des montagnes, dans la voix de Martial Briand en 1972, et qui parlait des montagnes comme le lieu par excellence de la quête. Et vous faisiez référence, Perrine Bourrel, à des montagnes intérieures. En fait, ce qui lie tout ce que vous nous racontez depuis une heure, c'est la question de la recherche.
Oui. Oui, vraiment, c'est ça.
Vous cherchez, quoi.
Oui, je cherche parce que j'ai vraiment... Mais c'est vraiment ça, j'ai l'impression de gravir une montagne et... Je vois un point là-haut et je me donne les moyens d'aller jusqu'à cet endroit. Et une fois que j'y suis, je vois qu'il y a un point... j'y reste aussi, j'apprécie cet endroit. Mais je vois un autre point et quelque part, c'est tout ce chemin entre les points qui est la recherche et qui est mon travail.
Et vous
c'est sans fin.
Vous retrouvez parfois la musique tout à fait classique qui vous a été enseignée il y a si longtemps?
C'est rare que j'entende ça aujourd'hui. Si je la retrouve, moi, dans cette montagne...
Est-ce que vous la recroisez? Est-ce que parfois ça redevient votre propre musique?
Non, c'est vraiment un autre monde. Non, j'ai pas recroisé cette...
C'est fini, vous ne la jouez plus non plus?
Ah non, je la joue plus, je peux pas, c'est impossible. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, hein. Enfin, c'est une musique qui me touche moins, mais... J'arrive pas techniquement, je peux pas jouer cette musique, c'est trop différent.
Merci beaucoup. Perrine Bourrel, Des Montagnes, c'est le titre de votre disque. Et donc je rappelle, je sais pas s'il est encore temps pour prendre la route pour la Pinatel du Zouave en Haute-Loire. C'est demain, ça commence dans l'après-midi?
Oui, ça commence à 14h. Les concerts commencent vraiment à 15h30. Il y a plusieurs solis éclatés dans la forêt. Et puis après, c'est parti pour toute la nuit avec des concerts et des bals.
Dites-le-moi du bout des lèvres. Moi, je l'entends du bout du cœur. Fort, calmez donc cette fièvre. Oui, j'écoute. Oh, dites-le-moi doucement, murmurez-le-moi simplement, je vous écouterai bien mieux, sans doute. Si vous parlez du bout des lèvres, j'entends très bien du bout du cœur, et je peux continuer mon rêve, que l'amour soit à mon oreille, tout comme le chant des abeilles. On était un jour au soleil, au soleil. Regarde dans le soir qui penche, la pince de l'eau qui balance, la jolie sa voix de blanche qui pense. Je vous le dis du bout des lèvres, vos magasins du cœur, vos cris me dérangent. Je rêve. Venez donc me parler d'amour. Ma femme mince dans ce ventre jour. Et faites-moi, je vous en prie, silence. Prenons le temps, soir qui penche, à l'avance, voyez qui balance. Quelle est jolie sa voix de blanche qui danse. Je vous dirai du bout des lèvres, je vous aime du bout du cœur. Et nous pourrons vivre mon rêve.
Prise de son ce soir, c'était Pierrick Charles. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Un grand merci à Lou Quevauvier, Valentin Rémy, Marianne Chassot, Romain de Bec-de-Lièvre et Jeanne Aléos qui m'aident à penser et préparer cette émission. Dans un instant, le journal sur France Culture, 22h. Et quand vous voulez, franceculture.fr à la page de Par les temps qui courent.